Docteur John Oswald, Isaïe, session 30, Isa. 63 à 66. Copyright 2024 John Oswald et Ted Hildebrand. C'est le docteur John Oswald dans son enseignement sur le livre d'Isaïe. Il s'agit de la session numéro 30, Isaïe, chapitre 63 à 66. Prions ensemble. Père, comme nous te remercions pour ton serviteur notre frère Isaïe. Merci pour cet homme ouvert à votre esprit, dirigé par votre esprit, inspiré par votre esprit. Merci car grâce à lui vous avez pu parler à votre peuple non seulement il y a 2700 ans, mais aussi aujourd'hui. Merci. Nous prions pour qu'une fois de plus vous nous aidiez à comprendre plus clairement ce que vous dites dans votre livre et que nous soyons ensuite capables de l'appliquer plus clairement à nos vies afin que nous soyons effectivement le peuple de Dieu que vous appelez nous à être. En ton nom, nous prions. Amen. Très bien, nous regardons les chapitres 60 à 62 ce soir. La partie médiane de cette dernière section du livre, dont nous avons parlé, est le terme technique, un chiasme. Et la partie centrale du livre est constituée de chapitres, et la partie centrale du chiasme est constituée des chapitres 60 à 62. Nous avons vu comment le début et la fin se concentrent sur le but de tout cela, à savoir les gentils justes. C'est l'intention de Dieu et nous l'avons vu dès le début, au chapitre 2. De quoi s'agit-il ? Il s'agit du monde qui apprend à connaître Dieu, comme le dit le dernier chapitre, le chapitre 66, pour voir sa gloire. Et encore une fois, je l'ai dit à plusieurs reprises au cours de notre étude, mais le livre d'Isaïe est une symphonie. La symphonie est caractérisée par ses thèmes qui remontent à la surface puis reviennent et puis les revoilà. Et l'un de ces thèmes est vu au chapitre 6. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu des armées. La terre entière est pleine de sa gloire. Et dans ce dernier chapitre, toutes les nations vont venir voir la gloire de Dieu. Encore une fois, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, la gloire dans l'Ancien Testament n'est pas quelque chose d'éphémère et de passager. La gloire est la réalité. C'est significatif. C'est solide. Le but de Dieu est donc que tous les hommes voient sa réalité. Ils verront sa réalité dans le monde. Ils verront sa réalité dans les mots. Ils verront sa réalité dans la vie des autres alors que Dieu répandra sa gloire sur nous. Ensuite, nous avons vu combien, en réalité, les gens eux-mêmes sont injustes, les injustes judéens. Ils ne parviennent pas à être ce qu'ils étaient censés être pour le bien de ces gens-là. Et ainsi, Dieu vient comme le guerrier divin, celui qui va effectivement à l'encontre de l'ennemi et, comme je l'ai expliqué, l'ennemi du péché. Et le résultat est alors ce que nous trouverons dans ces trois chapitres ce soir. Maintenant, permettez-moi de rassembler un peu tout cela avant de nous lancer là-dedans et de vous rappeler comment je pense que le livre est structuré. Maintenant, je dis que je pense parce que dans un travail aussi complexe et aussi important, il existe de très nombreuses opinions sur la façon dont tout ce matériel s'articule. Mais je vous ai suggéré que les chapitres 1 à 6 sont l'appel au service. Et on voit là le problème. Comment cet Israël pécheur et corrompu, pourra-t-il jamais être l'Israël pur et saint qui sera celui vers qui toutes les nations viendront pour apprendre l'enseignement de Dieu? Et la solution que je vous ai suggérée est que la même expérience qu'a vécu l'homme aux lèvres impures soit vécue par le peuple dans son ensemble. Ensuite, nous avons vu comment, dans les chapitres 7 à 39, la confiance est la base du service. Peut-on lui faire confiance, ce Dieu, ce Saint d'Israël? Ou allons-nous plutôt faire confiance à l'humanité, aux nations de l'humanité? Et nous avons vu comment, dans ces chapitres, Dieu leur démontre qu'il ne faut pas faire confiance aux nations. On ne peut pas faire confiance à l'humanité. Mais il est entièrement digne de confiance. Et nous avons vu comment ce thème de la confiance, ou quel est le synonyme courant de la confiance ici dans Isaïe et dans tout l'Ancien Testament. Mais elle l'a compris. Attendez. Attendez le Seigneur. Parce qu'en fait, nous pouvons dire que nous lui faisons confiance, mais si nous allons de l'avant et essayons de résoudre le problème par nous-mêmes, nous ne lui faisons clairement pas confiance. C'est lorsque nous mettons de côté nos propres projets, nos propres compréhensions, nos propres objectifs, et permettons à Dieu de les réaliser à sa manière, que nous lui faisons vraiment confiance. À la fin de 39 ans, il a été prouvé que l'on peut faire confiance à Dieu. Dans la crise de l'attaque assyrienne contre Jérusalem, Ézéchia a fait confiance à Dieu et, contre toute attente, Dieu l'a délivré. En même temps, nous voyons qu'Ézéchia n'est pas le Messie. Ézéchia est faillible. Ce Messie qui a été promis, surtout ici au chapitre 11, nous allons devoir chercher quelqu'un d'autre qu'Ézéchia. Il n'est pas l'enfant né sur les épaules duquel repose le gouvernement. Nous devons chercher quelqu'un d'autre. Ainsi, dans les chapitres 40 à 55, nous avons la grâce, le motif et les moyens de servir. Et c'est en 40 à 48 qu'on voit cette motivation. Ce sont des serviteurs choisis de Dieu. Malgré le fait qu'ils soient en exil à cause de leurs péchés. Néanmoins, Dieu ne les a pas rejetés. Ils sont choisis. Et il va les utiliser dans son procès contre les dieux. Il va les utiliser pour prouver que lui seul est Dieu et qu'il n'y en a pas d'autre. Mais la question qui se pose alors, et c'est donc le motif. La grâce, imméritée, va les motiver à faire confiance à Dieu. Mais la question demeure, comment? Dieu va-t-il simplement ignorer leur péché et le nôtre? Faire comme si nous n'avions rien fait? Et j'ai soutenu à maintes reprises que Dieu ne peut pas faire cela. Bien sûr, il peut tout faire. Mais s'il ignorait simplement nos péchés, le monde construit sur la cause et l'effet s'effondrerait. Nous avons péché, et il faut donc faire quelque chose pour remédier à ses conséquences. Et cela a pour effet que le serviteur donne sa vie pour les serviteurs. Et voilà donc le moyen. Le motif, de 40 à 48. Les moyens, de 49 à 55. Eh bien, au moment où vous arrivez à la fin de 55, ils ont été livrés. La nature se réjouit. Ce qui reste? Il reste encore 11 chapitres. Et nous voyons que la justice est le caractère attendu des serviteurs. Et c'est ce que nous avons observé ces derniers jours, le caractère du service. Pourquoi sommes-nous délivrés de nos péchés afin de pouvoir partager le caractère de Dieu? Et cela fait 56 à 66. C'est donc ainsi que je comprends le fonctionnement du livre. D'autres personnes le comprennent de différentes manières, et ce n'est pas grave. Ils peuvent se tromper. Et je pourrais l'être aussi. Mais c'est ainsi que je vois le livre fonctionner. Je dois dire que la chose que l'on dit le plus souvent à propos de cette proposition est « Attendez une minute, Oswald ». Serviteur, le mot, n'apparaît pas de 1 à 39. Alors, comment diable pouvez-vous utiliser ce thème? Eh bien, je l'utilise à cause de la destination du livre. Très clairement dans les années 40 à 66, le service du peuple est au centre. Et je dirais que, compte tenu de cela, nous pouvons voir comment la partie précédente du livre mène à cela. D'accord. Des questions ou des commentaires à ce sujet? Je veux dire, si vous en avez fini avec 30 semaines et que vous n'avez pas ça en tête, je suis en quelque sorte époustouflé. Des questions? Commentaires? D'accord. J'y vais une fois. D'accord. Chapitre 60, versets 1 à 3. Et je veux que vous compariez ces versets. Lève-toi, brille, car ta lumière est venue. La gloire du Seigneur, voilà la gloire, s'est levée sur vous. Voici, les ténèbres couvriront la terre, les ténèbres épaisses couvriront les peuples. Mais le Seigneur se lèvera sur vous. Sa gloire sera vue sur vous. Il y a encore de la gloire. Et les nations viendront à ta lumière et les rois à l'éclat de ton lever. Maintenant, je vous demande de comparer cela au chapitre 59, versets 9, 10 et 11. La justice est donc loin de nous. La justice ne nous dépasse pas. Nous espérons la lumière et voyons les ténèbres. Pour la luminosité, mais on marche dans la pénombre. Nous cherchons le mur à tâtons comme des aveugles. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont pas Dieu. On trébuche à midi comme au crépuscule. Parmi ceux qui sont en pleine vigueur, nous sommes comme des morts. Nous grognons tous comme des ours. Nous gémissons et gémissons comme des colombes. Nous espérons justice, mais il n'y en a pas. Pour le salut, mais c'est loin de nous. Diriez-vous qu'il y a un contraste entre cela? Maintenant, qu'est-ce qui explique ce changement? Qu'est-ce qui se passe entre ces deux-là? Le Rédempteur. Le guerrier divin. Toute cette section, 59, 15b à 21, est ce qui se situe entre les deux et explique comment on passe de 59, 9, 10 et 11 à 61, 1 à 3. Comment est-il possible pour nous d'être la lanterne à travers laquelle la lumière de Dieu brille sur le monde? Il n'y a qu'une seule façon, si le guerrier divin vient et vainc le péché et l'injustice qui nous ont effectivement retenus, eux et nous, captifs. Là encore, de nombreux commentateurs ne l'accepteront pas. Ils n'accepteront pas qu'il y ait un lien intentionnel entre l'échec de 59 et du précédent et ce que nous avons dans le chapitre 60. Ils diront simplement, eh bien, c'est accidentel. C'est une chose, c'en est une autre. Je n'y crois pas du tout. 59, 15b à 21 sont là volontairement. Il est venu, il a vu qu'il n'y avait personne qui pouvait faire cela, qui pouvait faire passer son peuple de l'injustice à la justice. Il se demandait pourquoi il n'y avait personne pour intercéder. Ainsi, son propre bras lui a apporté le salut et sa justice l'a soutenu. Il a revêtu la justice comme cuirasse. Oui. Ouais, vas-y. Que font-ils de ces vers? Il n'y a aucune connexion prévue. Vous avez 59 qui dit une chose, vous avez 59b, 15b à 21 qui disent autre chose, et vous avez 61 et les suivants qui disent autre chose, et ils n'ont aucun rapport. Il s'agit simplement d'un recueil de discours prononcés par diverses personnes à différents moments. C'est pourquoi je dis aux étudiants, si vous pouvez faire autre chose qu'une étude biblique académique, faites-le. Si vous n'y parvenez pas, pour l'amour de Dieu, ne faites rien d'autre. L'Église a besoin de vous. Mais l'étude biblique universitaire est aujourd'hui un champ de mine, largement dominé par des gens qui ont commencé comme croyants et ont perdu la foi à l'université et qui n'ont rien d'autre à voir avec leur vie. C'est donc une affaire sérieuse. D'accord, maintenant, d'où viennent la lumière et la gloire? Est-ce que cela vient de l'intérieur d'eux? Non, ce n'est pas le cas, n'est-ce pas? La gloire du Seigneur s'est levée sur vous. Le Seigneur se lèvera sur vous et sa gloire sera visible en vous. Oui, cela ne veut pas dire qu'ils étaient injustes et qu'ils ont vraiment, vraiment travaillé et vraiment, vraiment fait ce qu'ils étaient censés faire et ils sont devenus justes. Je ne dis pas cela un seul instant. Cela veut dire que cette lumière qui jaillit maintenant d'eux est un cadeau. Un cadeau qui a été reçu. Maintenant, à quoi sert la lumière? Verset 3, les nations viendront à ta lumière et les rois à l'éclat de ton lever. Quel est le danger de rechercher la plénitude de Dieu pour nous-mêmes? On pense vite que cela vient de nous. Ouais, quoi d'autre? Cela ne va pas plus loin. Il s'agit de moi, de ma relation avec Dieu et de ce que Dieu fait pour moi. Retour au péché originel avec fierté. Oui, oui. Le diable ne se soucie pas vraiment de la manière dont il nous amène à nous concentrer sur nous-mêmes. La voie du monde est bonne, mais la voie de l'autosatisfaction l'est aussi. D'accord. Maintenant, versets 4 à 14. Qu'est-ce que les nations apporteront à Jérusalem? Il y a deux ou trois choses qu'ils vont apporter. Qu'est-ce qu'un? Richesse. Ouais, vos fils et vos filles. Ce sont les deux choses principales. Ils vont venir avec leurs richesses. Et ils vont amener vos fils et vos filles. Et si vous vous souvenez de tout le long, en particulier à partir du chapitre 40, la question est, l'exil ne signifie-t-il pas que nous en avons fini? Nous sommes anéantis en tant que peuple. Nous sommes absorbés par ces grands empires et c'est fini. C'est pourquoi ils pensaient que l'exil ne pouvait pas avoir lieu. Parce que si c'est arrivé, nous sommes partis. Mais il dit non. Les nations qui vous opprimaient autrefois vont venir et elles vont amener vos enfants. Marie Gio, tu essaies de demander quelque chose. J'aimerais juste revenir au verset 3 dans une minute. Lorsque vous dites que nous recherchons Dieu, ce n'est pas comme si nous le cherchions simplement de manière aléatoire parce qu'il a une mission pour notre vie. Et le fait est que lorsque nous le recherchons, ce n'est peut-être pas ce que nous voulons. C'est donc en quelque sorte un « je vais juste utiliser le mot délicat ». Mais vous ne savez peut-être pas vraiment ce que vous demandez. Je pense que c'est très probable. Et encore une fois, je pense que c'est « vous avez entendu mon message hier ». Dieu est prêt à commencer avec nous avec une compréhension très, très insuffisante de ce qu'est son programme ultime. Mais tant que nous restons avec lui, tant que nous répondons à son Saint-Esprit, il dévoilera ce qu'est ce programme. Et ce n'est pas tout d'un coup. Non, ce n'est généralement pas le cas. C'est typiquement vous avez toujours dit, attendez. Oui, nous apprenons assez lentement. Ce serait bien s'il nous le disait tout d'un coup. Mais ce ne serait probablement pas bien s'il nous le disait tout d'un coup. Nous avions peur et nous nous enfuyons. Ou nous ne l'obtiendrons tout simplement pas, ouais, nous ne l'obtiendrons pas. Oui. Oui. Donc oui. Oui. Bien. Oui. Maintenant, pourquoi apporte-t-il ces choses? Verset 9. Pour honorer le Seigneur. Les côtes feront quoi? Attendez-moi. Au chapitre 41, cela a été dit. Les extrémités de la terre m'attendent. Ils ne le savent pas. Ils pensent qu'ils vont très bien. Mais en fait, étant le seul Dieu, qu'ils le sachent ou non, ils l'attendent. Ils le font donc en réponse à la révélation de son caractère et de sa nature. Mais regardez la toute dernière clause. Pourquoi font-ils ça? Dernière clause du verset 9. Oui. Il t'a rendu belle. Il vous a glorifié. Maintenant, la question est, comment fait-il cela? Et nous en parlerons davantage. Mais il y a ce thème. Il voit quelque chose dans Israël racheté qui les attire. Et passons à la question 3. À quoi va servir cette richesse? Regardez particulièrement le verset 13. Orner le sanctuaire. Oui. Ils veulent venir se joindre à la glorification de Dieu. Ils veulent venir exprimer quelque chose de l'émerveillement de qui est Dieu qu'ils voient dans la lampe. Et la lumière qui brille de la lampe. Ils veulent en faire partie. Retour au chapitre 2. Je continue de vous y ramener parce que je pense que c'est tellement programmatique. Ils veulent venir à la montagne de la maison du Seigneur pour connaître ses voies. Ces deux-là vont ensemble. Ils veulent venir au lieu de culte. Ils veulent venir au sanctuaire. Mais ils veulent y venir parce qu'ils croient que dans le sanctuaire ils peuvent apprendre les voies de Dieu. Dont ils ont désespérément besoin. Examinons maintenant le numéro 2. Ce sont les deux dernières occurrences de l'expression « le Saint d'Israël ». Au verset 9 et au verset 14. Maintenant, je l'ai déjà dit. Nous en avons déjà parlé. Quelles sont les deux choses que cette expression, le Saint d'Israël, évoque? Il y a ici deux idées qui sont liées. Quelles sont-ils? Séparation. Mais plus que la séparation. Relation. Il y a donc un côté. C'est une relation. C'est le Saint d'Israël. L'autre côté. Il est totalement transcendant. Il n'est pas ce monde. Il ne fait pas partie de ce monde. Mais cela ne concerne pas seulement une essence distincte. Il est une sorte d'être distinct de la création. Sinon, comment est-il séparé? Bien. Personnage. Encore une fois, je pense l'avoir déjà dit. Le livre le plus influent sur la sainteté écrit au XXe siècle était l'idée du saint d'un érudit allemand nommé Rudolf Otto. Et dans ce livre, il définit essentiellement la sainteté comme ce genre de séparation. Il utilisait des termes latins. Vous utilisez toujours le latin lorsque vous voulez impressionner les gens. Il a parlé du mystère formidable. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas pu révéler ce formidable mystère. Mais ce qui suscite la crainte. Quand nous sommes en sa présence, nous sommes terrifiés. Il a utilisé un autre mot, le lumineux. Mais il y a une chose dont il n'a pas parlé. Parce que vous voyez, c'est seulement dans la Bible qu'il y a un caractère distinctement saint. Vous ne pouvez pas séparer son essence transcendante de son caractère transcendant. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il veut partager ce personnage. Quand il dit « vous devez être saint comme je le suis », il ne veut pas dire que nous devons devenir Dieu. Mais il veut dire que je veux que vous partagiez mon personnage. Et cette expression, le Saint d'Israël, apparaît 25 fois dans le livre. Et puis il y a aussi le Saint de Jacob, qui se produit une seule et unique fois ici. Le seul endroit dans toute la Bible. Donc, pour mon argent, c'est 26 fois. Quoi que cela signifie. Sur les 31 occurrences de la Bible entière, 26 d'entre elles se trouvent ici dans Ésaïe. Examinons maintenant quelques-uns d'entre eux et essayons de comprendre ce qui se passe. Tout d'abord, avant de faire cela, regardez comment ils sont utilisés ici au verset 9. Les îles m'attendront, les navires de Tarsis en premier, pour amener de loin vos enfants, avec leur argent et leur or, car le nom de l'Éternel, ton Dieu, et pour le Saint d'Israël, parce qu'il t'a rendu belle. Maintenant, verset 14. Les fils de ceux qui vous ont humiliés viendront se pencher vers vous et tous ceux qui vous méprisaient se prosterneront à vos pieds. On t'appellera la ville de l'Éternel, la ville de l'Éternel, la Sion du Saint d'Israël. En d'autres termes, ils reconnaîtront que vous êtes un peuple distinct en raison de cette relation distincte. Maintenant, revenons en arrière. Chapitre 1, verset 4. Voyez d'où nous venons. Que quelqu'un le lise, s'il vous plaît. Chapitre 1, verset 4. Hélas, nation pécheresse, peuple chargé d'iniquité, groupe de méchants, enfants corrupteurs. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont provoqué la colère, le Saint d'Israël. Ils ont fait demi-tour. Ils ont provoqué la colère du Saint d'Israël. La version que j'ai dit qu'ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ouah. C'est là que nous avons commencé. C'est là que nous avons commencé. C'est repris au chapitre 5. On ne prendra pas le temps d'y regarder, mais c'est la même chose. Vous avez méprisé le Saint d'Israël. Passons maintenant au chapitre 30, verset 11. Et il faut vraiment commencer par le verset 10. Ils disent aux voyants, ne voyez pas. Aux prophètes, ne nous prophétisez pas ce qui est juste. Parlez-nous des choses douces. Prophétisez des illusions. Quittez le chemin, détournez-vous du chemin. N'entendons plus parler du Saint d'Israël. Maintenant, j'aime le verset 12. C'est pourquoi ainsi parle le Saint d'Israël. Tu veux que je me taise? Eh bien, laissez-moi vous dire quelque chose. Le mépris, le provoquant à la colère. J'essaie de le faire taire. Verset 15 du chapitre 30. Qu'est-ce que le Saint de la parole d'Israël pour nous? Dans le repentir et le repos, vous serez sauvés. Dans le calme et la confiance seront votre force. La grâce. Voudriez-vous simplement arrêter de vous précipiter, d'essayer de réaliser vos illusions, et vous reposer? Reste en moi. C'est le Saint qui dit cela. Chapitre 37, verset 23. Ceci est adressé à Sennachérib. Quelqu'un a lu celui-là. Reproché et blasphémé. Contre qui avez-vous élevé la voix et levé les yeux en haut? Contre le Saint d'Israël. Oui, oui. Mon ami, tu ne sais pas qui tu as choisi d'affronter ici. Vous pensez que vous vous êtes moqué des Échias. Vous pensez que vous vous êtes moqué du Dieu local de Juda. Oh, c'est le Dieu de Juda, d'accord. Mais c'est lui le Saint. Vous vous êtes plongé dans un désastre bien plus grave que ce que vous aviez prévu. Chapitre 41, verset 14. N'aie pas peur, vers Jacob. Vous, homme d'Israël. C'est moi qui vous aide, déclare Yahweh. Votre Rédempteur est le Saint d'Israël. Nous sommes donc passés de l'endroit où les gens se moquent du Seigneur à l'endroit où les gens essaient de faire taire le Saint, jusqu'à la Syrie se moquant du Saint et se mettant dans beaucoup d'eau chaude pour cela au Saint de Israël se proclame en grâce comme son Rédempteur. Et dans toute cette dernière section du livre, le Saint, votre Rédempteur, apparaît encore et encore. Parce qu'il est le Saint, il est capable de vous racheter. Parce qu'il s'est donné à toi par amour, il veut te racheter. Et il va vous racheter. Et les nations viendront glorifier le sanctuaire du Saint d'Israël. D'accord, passons à autre chose. Versets 15 à 22. Quelle sera la preuve que le peuple est véritablement racheté? Versets 15 et 16. Oui. Quand les oppresseurs viendront. Et puis que se passera-t-il à la fin du verset 16? Oui, oui. Vous reconnaîtrez enfin que lorsque ces choses se produiront, vous saurez que je suis le Seigneur. Notre temps s'envole ici. 26.1 parle de vous avez une ville forte dont les murs sont le salut. Et 60.18 dit que vous appellerez vos murs salut et votre porte louange. À quoi ça sert des images comme ça? Qu'est-ce qu'elle dit? Très bien, ils sont enfermés avec lui. Bien, bien. Quoi d'autre? Les murs sont en quelque sorte le casque du salut. Très bien, le casque du salut. Le salut devient votre protection. Et ses portes louent. Quel est l'intérêt de ces images? Très bien, l'entrée à la louange. Pardon? Très bien, il fait face. Ceux qui franchissent les portes le font avec des louanges. Levez vos têtes, portes puissantes, pour que le roi de gloire entre. Oui, oui. Il y a donc un sens dans lequel le salut est, si vous voulez, statique dans le sens où il nous protège, il nous enferme, mais la louange est l'entrée et la sortie de notre vie par rapport à lui. Ce genre d'image mérite d'être pris en compte lorsque vous lisez la Bible avec dévotion. C'est facile pour nous, nos yeux glissent sur la surface et nous ne réfléchissons pas vraiment, de quoi s'agit-il? Vos murs sont le salut. Ouais, d'accord, que dit le verset suivant? Cela vaut donc la peine, en poésie en particulier, d'essayer de réfléchir, quelle est cette imagerie, qu'est-ce que l'auteur cherche à transmettre en utilisant ce genre d'imagerie? Maintenant, verset 21. Votre peuple sera tous justes. Revenons à 58 versets 6 à 8. Et je veux poser la question, est-ce que quand il est dit que votre peuple sera tous justes, je veux vous demander, est-ce une condition réelle, ou est-ce juste une déclaration d'une position? D'accord, tu as raison, Candice, on parle de comportement là-bas en 58, n'est-ce pas? Nous parlons de style de vie, oui, oui. Exactement, Et encore une fois, il y a beaucoup de gens qui diront à propos de tout ce passage, « Non, non, c'est la justice qui vient par la foi. » Dieu déclare que nous sommes justes, même si nous ne le sommes pas. Je ne pense pas. Maintenant, bien sûr, en guise de justification, nous recevons la justice de Christ. Nous sommes mis à la place du Christ. C'est une vérité théologique. Mais je tiens à insister sur le fait que nous ne pouvons pas nous arrêter là. Il nous donne cette position afin que nous puissions manifester ce caractère. Il nous le donne, alors qu'allons-nous en faire? Exactement, oui, oui. Ainsi, dans Philippiens, Paul dit, « Je veux la justice qui vient par la foi. » Et beaucoup de gens diront que c'est une position. Dieu vous regarde à travers les lunettes colorées de Jésus, il vous voit comme juste, même si nous savons tous que vous n'êtes pas juste, mais c'est la justice par la foi, pas par les œuvres. Eh bien, cela passe à côté de l'essentiel. Puis-je être assez bon pour Dieu dans ma force? Absolument pas. Comment pouvons-nous, vous et moi, vivre la vie de Dieu dans nos relations, dans notre comportement, dans notre style de vie? Un seul chemin, par la foi. Voyez-vous mon point? Le changement de caractère se fait par la foi. Ce n'est pas une question de changement de caractère, oh, ce sont les œuvres, et de position, c'est la foi. Non, c'est les deux. Nous arrivons dans une nouvelle position, non plus ennemis, mais fils et filles, par la foi. Dieu merci. Et par la foi, nous pouvons vivre la vie de Dieu. D'accord. Votre peuple sera tous justes. La branche de ma plantation. Maintenant, je veux que vous gardiez un œil sur cette phrase. La branche de ma plantation. Au début du premier chapitre, les gens étaient comparés à une forêt desséchée, tendre pour le feu qui va la traverser. Ce langage des arbres traverse le livre. Les arbres peuvent être arrogants, droits, fiers ou être un cadeau béni de Dieu. D'accord, garde un œil dessus. Maintenant, chapitre 61, 1 à 3. Et je vous demande de regarder le chapitre 11, versets 1 à 3, et l'élément clé que j'espérais que vous y verriez est la même insistance sur l'esprit. Le chapitre 11, dans sa discussion sur le Messie, parle de la manière dont l'esprit va vivre sa vie à travers le Messie. Et donc le revoilà. L'esprit du Seigneur Dieu est sur moi. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'a oint. Maintenant, je suis parfaitement confiant, et je peux me tromper parfaitement, mais je suis parfaitement sûr que c'est ce qui se passe lors du baptême de Jésus. Encore une fois, j'espère qu'il y aura des rediffusions instantanées sur ces choses. Je veux voir le visage de John, tu sais? Il baptise ces gens au nom de Dieu, au nom de Dieu, au nom de Dieu, oh. Jésus, que fais-tu ici? Tu devrais me baptiser. Et Jésus dit, accomplissons toute justice. John, faisons ce qu'il faut ici. Quelle est la bonne chose? Pour démontrer que l'Esprit de Dieu descend sur cet homme, il est réellement le Messie. Pourquoi l'Esprit est-il sur moi? Parce que le Seigneur m'a oint. Donc non, Jésus n'avait pas besoin de recevoir le Saint-Esprit. L'une des hérésies de l'Église est que Jésus est devenu le Fils de Dieu lorsqu'il a été oint par l'Esprit, ce à quoi je dis respectueusement, de la foutaise. Il était la deuxième personne de la Trinité depuis le début des commencements. Il n'est devenu rien ici, mais c'était une action symbolique qui confirmait que celui-ci était bien le Messie. En fait, il accomplit Isaïe 61. Maintenant, que va faire loin? Pouvons-nous le lister ici? Très bien, il va prêcher. À qui va-t-il apporter une bonne nouvelle? Les pauvres. Bienheureux les pauvres, dit Luc. Et je ne pense pas que Matthieu ait tort lorsqu'il dit, aux pauvres en esprit. Parfois, nous qui sommes riches, utilisons cela comme une sorte d'excuse, mais ce sont généralement les pauvres qui sont contrits. C'est de cela dont nous parlons ici. Nous avons vu cette note tout au long du livre. Ces gens qui peuvent se tenir debout dans leur propre justice n'ont rien à entendre de Dieu. Encore une fois, Jésus l'a confirmé. On n'envoie pas le médecin chez quelqu'un qui va bien. Vous envoyez le médecin vers quelqu'un qui sait qu'il a besoin d'aide. Très bien, que va-t-il faire d'autre? Il va guérir ceux qui ont le cœur brisé. Quoi d'autre? Liberté pour les captifs. Quoi d'autre? Libérer les prisonniers. Pardonner aux prisonniers? Il annoncera l'année de la faveur du Seigneur et le jour de la vengeance de notre Dieu. Et j'espère qu'à ce moment-là, je n'aurai plus besoin de vous parler de vengeance dans ce contexte. C'est une bonne et non une mauvaise nouvelle. Et pour réconforter ceux qui pleurent. Encore une fois, je pense que si vous connaissez ce passage et que vous entendez les béatitudes, vous savez ce que prétend ce type. Bienheureux ceux qui pleurent car ils seront consolés. Ouais. Et tous ces gens debout sur cette colline disent, attendez une minute. Qui est-ce? Mais attendez une minute. Je viens de Nazareth. Je l'ai connu quand il était un enfant au nez qui coule qui courait dans les rues. Qu'est-ce qu'elle dit? L'huile de joie au lieu du deuil. Le vêtement de louange au lieu d'un esprit faible. Maintenant, voici où j'en viens. Cette dernière déclaration au verset 3. Pourquoi va-t-il faire tout cela? Donnez-leur un nouveau nom. La plantation du Seigneur. Afin qu'on les appelle chaînes de justice. La plantation du Seigneur. Tu te souviens de ça? La branche qu'il a plantée. L'implantation du Seigneur afin qu'il soit glorifié. Ouais. Il va nous transformer en arbre. Il va créer sa propre plantation. Pas la plantation du sud où nous sommes tous esclaves, mais une plantation d'arbres. Enraciné, fructueux, productif. Une bénédiction. C'est son objectif. Ceux qui sont contrits. Ceux qui ont le cœur brisé à cause de leurs péchés. Ceux qui sont captifs de leurs péchés. Ceux qui pleurent. Seigneur, Dieu Mahouin. Oui. De la beauté pour les cendres, je pense. Oui. La beauté pour les cendres. Et encore une fois, vous vous souvenez de la fin du chapitre 3, où les belles femmes de Sion, avec toutes sortes d'accessoires que vous pouvez imaginer, marchaient avec des bracelets de cheville qui étaient reliés entre eux, bien sûr, pour qu'elles ne puissent pas marcher comme ils marchent dans un champ labouré, mais ils doivent faire de petits pas hachés. Et Dieu dit, oui, à la place de cette belle ceinture brodée, il y aura une corde. À la place de cette belle coiffure, il y aura la calvitie. Ce que je prends personnellement, mais quand même. Mais ici, nous l'avons renversé. La beauté pour les cendres. Les cendres de notre injustice. Les cendres de nos bris. Les cendres de notre échec. Sa beauté. La question est, le cœur brisé est-il à cause du péché ou à cause du chagrin et du chagrin? Et ma réponse est oui. Je pense que c'est inclusif. Toutes ces choses qui nous brisent le cœur. Et dans une large mesure, le cœur brisé existe dans le monde à cause du péché. Ainsi, tout le deuil qui nous arrive en tant qu'humain, Christ est venu le gérer. Et je suis convaincu que c'est la raison pour laquelle vous avez ce langage intéressant dans Ésaïe 53. Il a pris nos douleurs et nos maladies, c'est ce qui est dit littéralement. Maintenant, je ne pense pas que le roi Jacques ait tort lorsqu'il traduit nos chagrins et nos peines. Je pense que ceux qui voudraient limiter cela à la maladie et à la douleur ont tort. Mais si nous devions seulement dire qu'il s'agit de choses spirituelles, je pense que ce serait également faux. Sur la croix, il a pris toute la douleur, le chagrin, la maladie, le chagrin de ce monde et les a pris en lui. Et toujours, je ne peux jamais m'en sortir en méditant le Vendredi Saint. Pense Y. Durant ces 3 ou 4 heures, toute la douleur, tout le chagrin, toute l'horreur, toute la tragédie de ce monde l'ont frappé. Il n'est pas étonnant qu'il ait transpiré des gouttes de sang à Gethsémani et demandé à Dieu s'il y avait un autre moyen. Beaucoup de gens sont allés au martyr en chantant. Alors, quel est le problème avec ce Jésus? Une mauviette? Oh non. Oh non. À cause de ce qui allait lui arriver. Et il a ainsi pu proclamer la liberté. Très bien, notre temps est révolu. Et nous avons encore du chemin à parcourir ici. Permettez-moi de souligner rapidement certaines choses. Nous partons maintenant de l'autre côté de la colline. Nous sommes arrivés au sommet ici en 61.1-3. Et concrètement, quel est le but de tout cela? Afin qu'on les appelle chaînes de justice, plantation du Seigneur, afin qu'ils soient glorifiés. Dans le vrai sens du terme, c'est là le point culminant de tout cela. Maintenant, nous commençons par l'autre côté. Ils reconstruiront les ruines antiques. Ils relèveront les anciennes dévastations. Ils répareront les villes en ruines, les dévastations de plusieurs générations. Des étrangers se lèveront et s'occuperont de vos troupeaux. Les étrangers seront vos laboureurs et vos vignerons. Ces gens qui vous ont opprimés seront vos esclaves. Ils vont faire votre travail subalterne à votre place. Pourquoi? Verset 6, afin que vous puissiez être appelés prêtres de Dieu. Ils parleront de vous comme des ministres de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations. Dans leur gloire, vous vous vanterez. Tu te souviens de ce que Dieu a dit dans Exode 19? Dans ce chapitre qui les prépare à l'alliance? Si vous acceptez mon alliance, vous serez un royaume de prêtres, un sacerdoce royal, une nation sainte. Ils pensaient qu'avoir le royaume de Dieu signifiait avoir un monarque davidique sur le trône, qu'il serait un état-nation indépendant dont l'indépendance serait garantie par une armée permanente, et que ce serait ce que signifiait être le royaume de Dieu. Ils reviennent d'exil et rien de tout cela n'est possible. Il n'y a pas de monarque davidique. Ils ne sont pas riches. Ils ne sont pas le centre du monde. Ils n'ont pas d'armée. Ils n'ont pas d'état indépendant. Voilà, c'est fini. Maintenant, mes amis, vous avez une chance de devenir ce que vous êtes censé être, les prêtres du monde, pour l'amour de Dieu. Et concrètement, c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à retrouver leur sens de l'identité, lorsqu'ils ont dit, « Ah, nous pouvons devenir une nation de prêtres. » Maintenant, je ne pense pas qu'ils comprenaient encore que ce sacerdoce était vraiment destiné aux autres. Ils voyaient cela simplement comme, « Ok, nous allons servir Dieu. » Mais qu'est-ce qu'un prêtre ? Un prêtre est un médiateur qui se tient entre Dieu et le monde. Ainsi, si les oppresseurs, les anciens oppresseurs, deviennent vos serviteurs, cela devient pour vous l'opportunité de devenir enfin ce à quoi vous avez été appelé au départ. Très bien, continuez un peu plus loin. Je me réjouirai dans le Seigneur et mon âme exultera en mon Dieu. Ceci est le verset 10. Car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la justice. Comme un marié se pare comme un prêtre d'une belle coiffure, comme une mariée se pare de ses bijoux, car comme la terre produit ses germes, comme un jardin fait germer ce qui y est semé, ainsi le Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange germeront devant toutes les nations. Maintenant, si vous avez la RSV ou la NRSV, ou même la NIV dans certains cas, dans beaucoup de ces endroits où le mot justice apparaît, vous trouverez la justification, particulièrement ici au verset 11. Il fera germer la justification et la louange devant toutes les nations. Non, ce n'est pas le cas du NLT. Le NLT a bien compris. Voyez-vous la différence entre la justification et la justice? Maintenant, ce qu'ils font, c'est qu'ils disent, eh bien, c'est la justice de Dieu manifestée en vous. C'est votre justification. Encore une fois, il y a là une lecture théologique. Le texte dit qu'il fera la justice. Cela ne dit pas la justice de Dieu. La justice surgira devant les nations. Pour l'amour de Sion, je ne garderai pas le silence. À cause de Jérusalem, je ne me tairai pas jusqu'à ce que sa justice éclate comme un éclat et son salut comme une torche allumée. Maintenant, remarquez, et je vais vous laisser partir avant minuit. Notez ce jumelage. Pas de paring, mais de pairing. Rappelez-vous ce que j'ai dit à propos de la poésie hébraïque, à savoir que le même point est répété deux fois, mais en utilisant des synonymes. Ainsi, la justice va de pair avec le salut. Désormais, chacun d'eux offre quelque chose à l'autre. Ce ne sont pas de simples synonymes. Alors, qu'est-ce qu'être sauvé? C'est être capable de manifester la justice de Dieu dans votre vie. Mais, de la même manière, la seule manière par laquelle vous pouvez manifester la justice de Dieu dans votre vie est le résultat du salut divin de Dieu. Je suis un homme bon. Je suis juste. La façon dont Dieu appelle les gens à être justes. Et si vous travaillez un peu plus dur, vous pourriez être aussi bon que moi. Jamais, jamais, jamais. Eh bien, je suis sauvé. Donc, peu importe comment je vis. Non, chacun informe l'autre. Être sauvé, c'est vivre la justice de Dieu. Mais vous ne pouvez pas vivre la justice de Dieu sans un salut gracieux. Ils sont liés. Dieu produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Oui, oui. Travaillez à votre propre salut en tremblant. Parce que Dieu le fait. Merveilleux, merveilleux mélange là-bas. D'accord, permettez-moi juste de souligner quelques points supplémentaires et nous nous arrêterons. Dans ces versets restants, le voici à nouveau. Les nations verront ta justice. Tous les rois ta gloire. Ici, la justice et la gloire vont de pair. Vous serez appelés d'un nouveau nom que la bouche du Seigneur vous donnera. Vous serez une couronne de beauté. Encore une fois, voici un autre de ces thèmes. Vous remontez jusqu'au chapitre 28. Et Samarie est la couronne sur la tête des ivrognes, au fond de la vallée verdoyante. Vous serez une couronne de beauté entre les mains du Seigneur. Plus jamais abandonné. Il y a un autre terme qui est apparu auparavant. Tu t'appelleras Hephzibah. Nous ne nommons plus nos filles ainsi. mais cela signifie littéralement que mon plaisir est en elle. C'est un beau nom. Ouais, ou Epsi. Alors que nous essayons de décider si nous utiliserions un surnom pour notre fille Elisabeth, Karen a proposé Betsy. Et j'ai dit non, nous avions une vache nommée Betsy. Cela ne marchera pas. Ainsi, il parle d'elle comme de son épouse. Et enfin, verset 10, franchissez, franchissez les portes. Préparez le chemin pour le peuple. Construisez, construisez l'autoroute. Utilisez une concordance et recherchez la route dans le livre d'Isaïe. Et vous trouverez cela très intéressant. Élevez un signal. Certaines versions, et j'aime vraiment mieux, disent une bannière. Un drapeau de signalisation. Regardez celui-là. Dis à la fille de Sion, voici, ton salut arrive. Voici, sa récompense est avec lui. Sa récompense devant lui. Et ils seront appelés le peuple saint. Les rachetés du Seigneur. Vous serez appelés recherchés. Une ville pas abandonnée. Oui. Dieu permet à son peuple d'être juste. Le guerrier divin dont le sang tache ses vêtements. C'est lui qui est oint du Seigneur pour prêcher la bonne nouvelle. Celui-là. Et le résultat est que vous serez l'épouse de Dieu dont il est fier. Et toutes les nations viendront à ton Dieu à cause de toi. Amen. Laissez-moi prier. Père, merci pour ces journées ensemble autour de ta parole. Merci pour ces chers amis. Et je prie, ô mon Dieu, pour que certaines des choses dont nous avons parlé trouvent refuge dans leur cœur. Que vous les convaincrez effectivement à quel point ils vous sont précieux. Et vous afficherez effectivement votre beauté dans leur vie. D'une manière qui attirera les hommes et les femmes vers vous. Merci Jésus. En ton nom, Amen. Que Dieu vous bénisse tous. C'est le docteur John Oswald dans son enseignement sur le livre d'Isaïe. Il s'agit de la session numéro 30, Ésaïe, chapitres 63 à 66.